There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Fab, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose un bonus exceptionnel sur Histoire de Daron. Je vous propose donc une rediffusion de cette interview de Léa, aussi appelée Je ne suis pas jolie sur les réseaux, diffusée il y a quelques semaines sur mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Dans cette interview, Léa raconte son parcours et comment elle gère son business à seulement 23 ans. Elle est aussi, et c'est pour ça que vous la retrouvez aujourd'hui dans Histoire de Daron, c'est qu'elle est aussi la chérie de Sam Sam, qui a été invitée dans Histoire de Daron il y a un peu plus d'un an. C'est l'épisode numéro 38, je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast si vous ne l'avez jamais écouté, c'est vraiment très intéressant. Je me suis dit que ça valait la peine pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez été très nombreuses et nombreux à réagir à l'époque où j'avais sorti l'épisode avec Sam Sam, je me suis donc dit que cette interview pourrait intéresser également mes auditrices et mes auditeurs sur Histoire de Daron. La seconde, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de vous faire découvrir mon podcast d'interview qui s'appelle donc Histoire de succès, je vous le redis, et où je reçois tous les jeudis matins un ou une invitée pour lui parler de son parcours. La troisième, c'est que comme il n'y avait pas d'épisode d'Histoire de Daron ce lundi, je me suis dit que ça vous ferez un petit bonbon à croquer pour la semaine. Si vous l'avez déjà écouté ou que ça ne vous intéresse pas, désolé, vous pouvez passer celui-ci, mais vous pourrez bien sûr retrouver un nouvel épisode du podcast, un épisode traditionnel, dès lundi prochain, le 4 mai. En espérant que cette interview vous plaise, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast Histoire de Succès et à lui mettre une bonne note, bien sûr, sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un chouette commentaire, vous connaissez les trucs. Depuis le mois de septembre dernier, j'ai reçu des tas d'invités fabuleux, et notamment Fabien Olicard, Trio, Denis Brognard, Pomme, Vincent Delerme, Maurice Barthélémy, Marina Rollman, ou encore Fadili Camara pour les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Un grand merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une belle écoute et une très chouette semaine. Bonsoir. Bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je pars du principe que tant que le fond est au rendez-vous, la forme importe un peu moins, surtout dans cette période. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Léa, aussi connue sous le pseudo « Je ne suis pas jolie » sur Internet. Léa est créatrice de contenu sur YouTube, sur Instagram et sur bien d'autres plateformes où des millions de followers la suivent chaque jour. Elle a aussi un site de e-commerce et vient récemment de créer une société de conseils en influence. Le tout à 23 ans. Autant vous dire que Léa n'a pas perdu de temps. Ensemble, on discute de la façon dont la mère de Léa filmait l'intégralité de sa vie quand elle était enfant, de la création de sa chaîne YouTube alors qu'elle n'était encore qu'au collège, de la façon dont elle a géré ça pendant son lycée, de son abandon de l'école et de la façon dont elle a recruté sa première employée, le tout en donnant vie il y a 2 ans à un petit garçon. Bref, c'était un entretien intense, tout aussi intense que Léa, et j'espère qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour 2 choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Léa. On est avec Léa. Salut Léa.
Hello.
Ça va?
Ça va, tranquillement.
Comment ça se passe, ce confinement, quoi.
Bah écoute, ça se passe bien.
Ouais.
J'ai un peu du mal à le dire, tu sais, parce que tu vois tellement des personnes qui vivent mal, et je comprends, mais moi je suis une privilégiée. Déjà, j'ai un jardin, je suis pas seule, donc à partir de là, je remplis des critères qui font que ça se passe bien.
Ok. Ça se passe bien même avec l'enfant,
ouais.
Je crois voir.
Ouais, carrément. Bon, non, on profite ensemble, c'est bien.
Bon, c'est cool. Merci beaucoup, Léa, de venir dans cet épisode. Comment tu te décris, toi, aujourd'hui? Parce que tu es à la fois youtubeuse, influenceuse, chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu utilises comme adjectif pour te décrire?
Alors, tu vois, ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi. Passé un certain âge, je dis je bosse dans la com. Tu
okay.
vois. Je ne vais même plus expliquer. Mais concrètement, moi, mon métier de base, c'est créatrice de contenu.
Okay.
Je crée du contenu, donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le créer sur plein de plateformes différentes, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, hein, plus, plus classique Instagram, tout ça, mais aussi sur un podcast, voilà, qui parle de parentalité. Enfin, je suis créatrice de contenu. Moi, mon kiff, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment créer du contenu autour des sujets qui me plaisent. Et après, en fait, j'ai développé autour de ça plusieurs activités. Donc, j'ai un shop en ligne de création française pour toute la famille, Cracotte et Pyjama. Et on a aussi monté avec... avec Claire qui est ma chargée de com et maintenant mon associée pour donc cette nouvelle entreprise qui s'appelle Basic Conseil, où on fait du conseil en communication, on accompagne des entreprises, des marques, voilà, dans leur communication 360, et on est passé un petit peu de l'autre côté.
Waouh.
On va dire c'est les trois principales activités, ouais.
Et tout ça alors que tu n'as que 23 ans.
On est bien occupé, non? C'est vrai que j'ai pas la vie de quelqu'un de 23 ans quand tu regardes, mais
je crois, ouais. Il y a pas beaucoup de gens de 23 ans, ouais.
Non.
On va reparler un petit peu de tout ça. Moi, ce que j'aimerais, l'une des questions que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Léa quand elle avait 7-8 ans?
7-8 ans, écoute, j'ai de la chance d'avoir une maman qui m'a filmé en long, en large, en travers. J'ai des kilomètres de cassettes de moi, de 0 à, ouais, peut-être, je sais pas, 14 ans.
Ah ouais.
Mais vraiment un truc, mais hallucinant. C'est-à-dire que je les ai fait numériser, parce qu'à l'époque, c'était vraiment sur cassette et tout, et on a 600 DVD pleins de tout, mais tout. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elle posait la caméra, mais pour des trucs qui te paraissent vraiment insignifiants. Tu vois, pas les spectacles d'école, ouais. Si, entre autres, mais en plus de ça, tous les moments de la vie quotidienne où carrément je ne vois plus la caméra. Enfin, en fait, je suis là en train de manger mes brocolis, j'ai 3 ans et c'est génial. Enfin, je la remercie énormément d'avoir fait ça, parce que peut-être que déjà ça m'a donné cet attrait pour la vidéo, et puis en plus de ça, ça laisse des souvenirs assez fous. Donc elle était vraiment spectatrice de mon enfance. C'était assez fou parce qu'il n'y avait pas forcément d'interaction, juste elle se plaisait à faire ses images, et donc je sais qui j'étais à cette période.
Mais alors, avant que tu répondes, ça lui venait d'où exactement, ouais, cette envie de filmer tout ça, parce que c'est pas très commun, non? Elle était...
Ouais. Elle était même pas du métier,
ouais,
tu vois. C'est ça,
ça
qui avait... Non, mais je sais pas comment ça lui est venu, mais elle a toujours... Ma mère a toujours été très à se mettre à notre hauteur quand on était enfant. Elle était vachement... Sans nous infantiliser, justement, tu vois, nous parler un peu de façon un peu bébête et tout. Mm-hmm. Pas du tout. Elle a toujours eu une relation vachement d'égal à égal. Et du coup, c'est vrai qu'elle se plaisait à garder ses images. Elle a toujours aimé faire des albums photos. Et elle est... Ouais, elle l'a fait beaucoup pour moi, moins pour ma petite sœur, elle avait moins le temps. Mais franchement, c'est assez incroyable.
C'est triste en même temps, c'est tellement le classique, tu sais, où il y a des albums photos de ouf pour l'aîné et puis beaucoup moins de ceux pour le tien.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en plus, moi, on a 9 ans d'écart avec ma petite sœur, donc ouais. Elle était plus dans le digital, tu vois, il n'y avait plus le truc de faire développer ses photos, machin, donc...
Ouais.
Je pense que ça joue aussi. À 7-8 ans, j'étais une petite fille qui était très... Alors, assez autoritaire. Dans le sens, je savais ce que je voulais. J'ai des vidéos de moi où j'embarque ma grand-mère, ma famille, que je leur fais l'école. Tu vois, je les assois,
ouais,
vraiment. Je suis dans un truc assez... un peu autoritaire. Je sais ce que je veux déjà, hein, beaucoup. Je suis un peu ce qu'on pourrait appeler... j'aime pas toutes ces expressions, mais garçon manqué, dans le sens où je suis assez, assez casse-cou, quoi. Tu vois, j'ai un peu la coupe au bol, le gros sweat. Et j'aime bien mener mon petit monde. J'ai pas énormément de souvenirs très précis, mais j'ai eu une enfance heureuse, très entourée, on est très famille, donc ouais, c'est le souvenir que j'ai, et ce côté un peu, ouais, autoritaire, et puis déjà très dans la création. J'ai des classeurs entiers de dessins, de collages, de peintures, enfin tu sens que déjà j'ai envie de faire des choses, quoi. Voilà.
OK. D'accord. Et donc, mais ça passait plutôt par des travaux manuels, c'est ça?
Bah, à l'époque, ouais, je crois que j'avais pas encore décelé une vidéaste en moi. C'est venu assez tard, hein. Ça a commencé avec la webcam et
ouais.
Mais non, jusqu'alors, quand j'étais enfant, c'était plutôt très dans le jeu de rôle, tu vois. J'adorais les trucs de jouer à la maîtresse, j'aimais être dans ce truc-là, et j'aimais pas diriger, mais j'ai toujours, dans les travaux de groupe, un peu plus tard, même au collège, etc., j'ai tout le temps aimé mener les trucs. Alors, je sais pas si ça a joué, mais ça a toujours été présent dans ma personnalité.
Ok. Comment ça se passe pour toi, le collège?
Le collège. Le collège, ouais, très compliqué le collège. Ben, très compliqué et en même temps, pas de mauvais souvenirs, tu vois, de harcèlement, de trucs comme ça, parce que je faisais partie du groupe un peu populaire du collège.
Ouais.
Mais on n'était pas les populaires méchants. On était les populaires sympas, franchement.
Okay.
On était dans un petit collège de campagne et c'est vrai qu'on était tout un groupe de potes où on est encore potes aujourd'hui d'ailleurs.
Et ouais,
c'est assez fou. La plupart, on est toujours en contact et on avait des profils très différents. En fait, j'ai un souvenir d'une très grande tolérance entre les uns et les autres. Et moi, j'étais pas du tout dans le même mood que tout le reste de ma bande de potes, parce qu'ils étaient très sortis très vite, hein, genre la quatrième et tout, c'était soirée, alcool, drogue et rock'n'roll, quoi, en gros. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne bois toujours pas, d'ailleurs, je ne bois pas d'alcool. Tu vois, j'ai toujours ce truc de... Moi, je suis un peu contre le fric, mais... Depuis assez longtemps, donc l'idée de perdre un peu mes moyens, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. En plus, j'ai eu des parents qui ne m'ont jamais rien interdit, dans le sens où, tu vois, par rapport même à la consommation d'alcool et tout, ils étaient pas là à me mettre des bouteilles de vodka devant moi, et pas du tout, mais il n'y a pas eu de tabou autour de ça. On a toujours pu parler de tout, même au niveau de la sexualité, au niveau de plein de choses, et du coup, je sais pas si ça a joué, mais j'ai jamais eu ce truc de me dire, ah là, je vais transgresser quelque chose. Donc le collège, c'était assez, j'étais la maman, quoi. En fait, on venait confier ses problèmes, on me racontait toutes ces histoires, j'avais pas de petits copains de mon âge. C'est assez fou ça, j'ai toujours été attirée par des personnes beaucoup plus âgées, matures, et donc le collège, c'était voilà, c'était compliqué parce que pas dans le même moule que les autres, et en même temps j'en garde pas un mauvais souvenir, dans le sens où voilà, comme je te disais, j'étais entourée et je savais déjà que j'étais pas scolaire, donc au niveau scolaire je faisais strict minimum, voilà,
ouais.
Faut le dire, mais non, ça a été un bilan mitigé, mais ça a été plus compliqué, je trouve, que le lycée. Je trouve que le collège, c'est vraiment un sacré passage. Tu sens vraiment que tu passes d'un stade enfant à quelque chose de pré-ado-ado où t'es en construction de toi, quoi. Et avec le recul, tu sais que c'est une période un peu chaude. Quand tu le vis, peut-être que tu réalises moins, mais je trouve que ouais, c'est quand même c'est une sacrée période de transition.
Ok. Cette période de transition t'amène au lycée, c'est ça ?
C'est ça, lycée.
Et comment ça se passe, le lycée ?
Ben écoute, le lycée, très vite, j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Je suis partie en filière littéraire, un peu malgré moi, parce que en réalité, avec le recul, je pense que j'aurais été mieux dans une filière technologique, stratégie, management, etc., parce que ça correspond mieux à ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, dans le système actuel, c'est un peu les classes poubelles, entre guillemets, et c'est terrible de le voir comme ça, parce que c'est un cursus qui, pour moi, est hyper, hyper intéressant, dans le fait d'apprendre à être entrepreneur, etc. Ça pourrait être vachement valorisé. Je trouve que ça l'est pas. Du coup, mes parents ont préféré me diriger vers une filière générale et j'étais d'accord avec eux. Donc, je suis partie en littéraire parce que j'étais pas forte en maths, hein, clairement, c'était ça. Et que j'avais un peu d'attrait pour l'anglais. Et puis, au bout de la... Donc, la seconde est passée. Puis, en première, là, je me suis dit, mon Dieu, il va falloir que je me trouve un truc pour m'occuper parce que là, je vais péter les plombs. J'étais déjà très, 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 très active sur YouTube. Mes parents étaient hyper conciliants quand j'y pense. Ils me laissaient partir à Paris pour mes rendez-vous. Enfin, en pleine semaine de cours. Enfin, des trucs assez fous.
Ouais, parce que t'as lancé chaîne, t'avais 16 ans, c'est ça ?
Ouais, non, même plus jeune, j'ai commencé, j'avais 14-15 ans,
oui,
j'ai commencé,
oui,
fin collège.
Mais alors,
donc, tu vois, mais ça s'est professionnalisé en fait quand j'étais au lycée, c'est-à-dire que
ouais.
Quand j'étais au lycée en 2012-2013, j'ai commencé à me déclarer auto-entrepreneur, etc. Tu vois, c'était le début de la monétisation sur les réseaux, donc ça a commencé à être concret. J'ai eu la chance d'être accompagnée, d'ouvrir une structure. Ma mère, elle voulait que ce soit carré dès le début, dès le premier centime que j'ai reçu. C'est tout était carré, comptabilité et tout. Enfin, c'était vraiment un sacré monde, sachant que de l'autre côté, j'étais quand même en première, donc rien à voir avec ma réalité d'ado. Au lycée, quoi. Donc ils m'ont laissé quand même vachement en première un peu, mais alors en terminale c'était ouf, quoi. En terminale, j'ai eu 260 heures d'absence, j'étais l'élève la plus absente du lycée, et pourtant je n'étais jamais hors du lycée, en fait. C'est-à-dire que je venais au lycée, j'étais vice-présidente de la maison des lycéens. Je m'occupais de toute la partie associative du lycée, j'adorais ça parce qu'en fait ça me donnait des responsabilités et c'était, ouais, c'était mon kiff de mener des projets. On était hyper potes avec le CPE et du coup, le pauvre, s'il passe par là, il va se dire, mon Dieu, mais tout le monde ne comprenait pas parce que j'avais 260 heures d'absence. Et en fait, j'étais tout le temps au lycée. Je bossais sur mes trucs YouTube, je bossais sur mes vidéos, je faisais du montage au lycée, mais je n'étais pas en cours.
Qu'est-ce qui fait, excuse-moi, mais qu'est-ce qui fait avec le recul que tu, que l'école n'a pas réussi à te séduire, tu penses?
Ah, bonne parce question.
On sent une forme de désamour des très tôt, en fait, hein, entre l'école et toi.
Je pense que vraiment, enfin, c'est peut-être dans la personnalité, mais moi j'ai toujours eu du mal à vraiment me mettre à fond dans les trucs qui me plaisaient pas. C'est vrai que j'ai toujours aimé apprendre quand j'y voyais un intérêt, en fait, un intérêt pas forcément personnel, mais un intérêt global de ce à quoi ça va me servir plus tard, de le mettre en application dans quelque chose de plus concret. Et j'ai toujours eu du mal, je pense, à transposer ces connaissances-là qu'on pouvait avoir à l'école avec quelque chose de concret dans la vie en futur ou réel. Mais à contrario, il y a des matières comme ça, quand j'ai eu des profs géniaux, j'étais vraiment excellente. J'avais des 16, des 18 de moyenne, tu vois, mais d'une année à l'autre, ça pouvait passer du simple au double parce que le prof ne m'intéressait pas ou que j'arrivais pas à accrocher avec sa pédagogie, etc. Donc, je pense qu'il y a eu un truc là-dessus. Et puis aussi, je pense que c'est une question de profil. Moi, dans ma famille, on a toujours... Enfin, toute ma famille, c'est des entrepreneurs. De mon grand-père à mon père, ma mère. Tu vois, il n'y a jamais eu de parcours classique d'études, de salariés, de... Il y a toujours eu... ma mère est à son compte, mon père aussi. Mon grand-père a même pas le bac, il a monté son entreprise. Enfin, tu vois, il y a toujours eu ce truc-là, un peu débrouillard. Et je pense que ça me manquait à l'école, le côté responsabilité, le côté... Ouais, mener des projets, il y avait quelque chose de trop théorique pour moi, je pense, avec le recul. Et c'est pour ça que j'ai vite apprécié, tu vois, me dire, oh, je vais pouvoir partir et faire ce que j'aime. Et ouais, j'attendais ça avec impatience.
Qu'est-ce qui fait que tu te lances sur YouTube à l'époque où t'es au collège, là?
En fait, ça a commencé, une histoire d'assez assez folle. On était en train de faire un exposé en SVT, je sais même plus sur quoi. Et puis, je nomme des trucs improbables. Je tape sur YouTube un truc, je tombe sur une nana qui fait une vidéo « What's in my bag ?». Donc, c'est une nana qui ouvre son sac et qui montre ce qu'il y a dans son sac. Et je regarde ça et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vraiment, mais qu'est-ce qui lui prend de faire une vidéo sur ce qu'il y a dans son sac, tu vois? Et à un moment donné, je décide de faire une parodie pour mes copines de cette vidéo. À la webcam, vraiment, en me disant trop drôle, tu vois. Donc je fais le truc, machin et tout. Bon, ça fait rigoler deux, trois copines. Et il y en a une qui me dit ouais, t'en rigoles, mais te connaissant, je suis sûre que tu pourrais le faire aussi. Et je lui dis mais n'importe quoi. Bon, bref. Et le truc est laissé de côté. Puis je reçois un petit appareil photo numérique pour mon anniversaire, machin, qui fait vidéo. Et à un moment donné, un jour, je sais pas ce qui m'a pris. Écoute, je branche ma caméra et je parle comme ça à mes copines. Je sais même pas te dire ce que je raconte dans cette vidéo. Malheureusement, je les ai supprimées, à mon grand regret, parce que j'aurais bien aimé les voir aujourd'hui.
Pourquoi tu les as supprimées?
Mais ouais, non, mais c'est je sais pas, tu sais, à un moment donné, j'ai dû me dire, là, trop la honte, alors qu'en fait, non, c'est trop drôle, c'est les débuts, quoi. Donc j'ai commencé et j'ai créé cette chaîne. Je ne suis pas jolie, d'ailleurs. Tout le monde me dit, ah là là, mais pourquoi t'avais choisi ce pseudo? Bon, c'est une histoire un peu nulle, donc à chaque fois ça déçoit, mais c'était un slogan qui disait je ne suis pas jolie, je suis pire. Et j'avais gardé je ne suis pas jolie parce que je faisais des trucs sur la beauté, tout ça, et je me disais ah, c'est une jolie ambivalence avec le monde de la beauté, enfin tu vois. Et en fait, j'ai gardé ça et j'ai commencé vraiment sur YouTube à l'époque où c'était pas du tout le YouTube d'aujourd'hui, hein. Tu pouvais pas gagner ta vie, c'était une interface. Complètement sommaire et voilà, et la plus grosse youtubeuse française avait 7000 abonnés. C'était un truc de ouf. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et puis écoute, mes copines se sont bien foutues de ma gueule pendant quelques temps en me disant ah bah tu vois, toi aussi maintenant tu montres ce qu'il y a dans ton sac. Et puis bah ça a continué d'année en année, c'est fou.
Mais alors, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu racontes que quand tu as commencé à gagner des sous, t'as tout de suite eu un cadre, en fait, tu me disais, ta mère a voulu monter une structure, etc., etc. Comment tes parents, ils voient ça de l'extérieur? Tu leur en as déjà parlé, non?
Ouais, souvent, c'est ce qu'on pose comme question, c'est savoir, tu vois, comment ils ont géré le truc, puisque j'étais hyper jeune, et comment ils se sont dit que c'était quelque chose de sérieux, Et j'ai de la chance. Alors mon père pas trop, parce que on a une relation différente avec mon père, puis il est plus réservé sur ce genre de choses. Et c'est souvent ma mère en fait qui a pris beaucoup de décisions nous concernant. Donc je crois que j'ai traité ça avec elle en priorité, okay. Sachant que c'était l'interlocuteur à qui il fallait que je m'adresse pour avoir une chance d'avoir une réponse positive. et elle a pas du tout émis de réserve. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait bon, c'est dans sa personnalité, dans sa façon de voir l'éducation. Mais ma mère, elle nous a toujours soutenu, peu importe ce qu'on voulait faire, peu importe qui on voulait être. Et en fait, elle m'a même pas. En plus, la vidéo, elle, pour elle, c'était quelque chose qu'elle connaissait. Je me souviens qu'une fois, ma caméra est tombée en panne, qu'elle m'a même prêté son vieux caméscope pour continuer à faire mes vidéos. Et c'est voilà. Donc ça, elle a jamais émis de réserve. Elle regardait ce que je faisais sur Internet quand même, parce que voilà, en tant que parent, quand même, tu te demandes un peu ce que ta fille fout comme vidéo. En plus, la vidéo, c'est quand même assez particulier, quoi. C'est assez intime. T'as tout, t'as ta voix, ton image, voilà, c'est pas ton skyblog.
Mais c'est
tu
sûr.
Regardes avec tes copines, quoi, tu vois, c'est oui, parce que c'était aussi l'époque des skyblogs.
Eh oui.
Mais c'est voilà, c'est l'appel, enfin. C'est un autre monde quand même. YouTube, tu as une chaîne, tes vidéos, elles restent en ligne, tu vois, c'est pas quelque chose d'éphémère et tout. Et avec le recul, maintenant que je suis parent, je me dis qu'elle était quand même hyper tranquille. Mais c'est difficile, parce que à l'époque, YouTube n'était tellement pas ce qu'il est aujourd'hui, que c'est difficile de transposer les réactions que tu aurais aujourd'hui à celles d'il y a 9 ans.
Ouais, c'est ça. Et puis, il y a une prise de conscience sociétale par rapport à l'image des enfants et tout, qui est venue un peu tardivement, j'ai l'impression.
Complètement.
Par rapport à tout ça.
Complètement. Et heureusement, moi, j'avais de la chance de commencer à une époque où il n'y avait pas... Enfin, je n'ai pas de souvenir de hating ou de trucs comme ça. À l'époque, c'était tellement... voilà, c'était un truc de niche, quoi. Où il y avait peu de gens, donc... heureusement, parce que tu peux vraiment te faire détruire, hein, en ligne, surtout quand t'es si jeune, quoi.
Ouais, bah, on en reparlera un petit peu après, si tu veux, mais j'aimerais bien continuer dans la... Ou alors, si tu veux, on en parle maintenant aussi. On parle de comment tu...
Comment
t'as fait, toi, pour gérer cette... Bah, si tu me lances là-dessus, on peut y aller. Mais comment t'as fait, toi, pour gérer, avec le temps, les différents commentaires que t'as pu recevoir? Forcément, quand tu commences à devenir populaire, tu finis par avoir forcément des gens qui t'aiment pas. Comment t'as fait, toi, pour gérer ça avec le temps?
Alors,
Large question.
Non, mais j'ai vraiment eu une période où c'était très compliqué, parce que en fait, je faisais du daily vlog, donc tu vois, du vlog tous les jours. On était très peu à le faire en France, mais vraiment très très peu. Ça existait en Angleterre, tout ça, mais c'était vraiment pas quelque chose de courant. Et en fait, j'étais en coloc avec ma cousine, et c'est notre kiff. On faisait ces vidéos-là sans volonté particulière. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, avec le recul, ça marchait vraiment très bien. Il y avait énormément d'interactions, d'engagement, etc. Et du coup, forcément, ça attire pas que des personnes avec des intentions bienveillantes. Et il y a eu... Puis en plus, le vlog, c'est un format qui est particulier, parce que tu montres quand même si c'est 10 minutes sur 24 heures, tu montres des échantillons de ta vie. Donc en fait, ça amène et ça donne de la matière au jugement de tes moindres faits et gestes, quoi, de ce que tu bouffes au petit-déj, à la couleur de tes chaussettes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ton quotidien. Donc il y a eu beaucoup, 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 une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, parce que Twitter, c'est un peu le berceau de tout ça. Et c'est assez fou, parce que j'ai toujours eu, et j'ai encore, hein, une communauté de haters. Laisse tomber. Je pense qu'il y en a qui sont jaloux. Moi, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, mais sur des trucs, mais de fou. Alors maintenant, ça me glisse dessus, mais vraiment profondément, parce que déjà, j'ai plus Twitter. Donc déjà, j'y suis plus confrontée.
C'est une bonne façon d'échapper à cette
haine. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, quel est l'intérêt, en fait? Enfin, tu peux, t'as toujours des relations avec tes abonnés, les personnes qui vraiment ont des choses constructives à te dire sur d'autres réseaux sociaux qui sont plus faciles à modérer, parce qu'il faut le dire aussi, hein, Twitter, c'est quand même la porte ouverte à beaucoup de choses, et la haine pour la haine, bon, puis en plus, tu vois, quand tu deviens maman, machin, les gens, ils se permettent des trucs sur ton couple, sur ton... Attends, là, la dernière fois, c'était sur mon chien. Non, mais tu hallucines, quoi. C'est-à-dire que, et en même temps, je me dis, quelque part, peut-être que je permets à ces gens-là de se sentir un peu mieux à la fin de leur journée.
Ah voilà, ouais.
Ils ont déversé tout ce qu'ils avaient. Ouais, franchement, j'en suis venue à me dire, s'ils passent de l'énergie comme ça sur moi, enfin, je veux dire, je trouve ça ouf d'utiliser de l'énergie. Rien que, tu vois, pour aller regarder puis commenter la vie de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et en plus, moi, enfin, je veux dire, je sais pas, fous cette énergie dans une ONG, dans des revendications sociales, politiques. Non, non. Voilà, bon, écoute, je franchement, maintenant, j'en suis venue à en rire parce que j'ai réussi à vraiment passer au-dessus. Mais il y a une période où, oui, c'était très compliqué parce que, tu sais, t'es dans le truc où t'essayes de comprendre et t'essayes de vouloir plaire à ces gens. À te dire, bah peut-être que si je fais comme ça, peut-être... et puis après, bon, bah, c'est comme dans la vie en fait, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc non, en fait, à un moment donné, j'ai décidé de me protéger de tout ça, mais oui, je peux pas te cacher qu'il y a eu des périodes qui étaient compliquées, ouais, tu tombes un peu de haut parfois.
Ouais, ouais. Bon, c'est très. Enfin, je rappelle que tu as 23 ans, hein, toujours, parce que c'est important pour moi parce que. Tu fais preuve d'une maturité. J'en profite pour en placer une pour ton chéri, dont on n'a pas encore parlé, mais qui va sans doute à un moment donné arriver dans l'histoire, mais que j'avais interviewé pour Histoire de Daron et que dont j'avais fait la connaissance et qui m'avait semblé, bah, alors qui a le même âge que toi, hein, qui m'avait semblé d'une maturité folle à l'époque. Donc, allez, écoute, je vous mettrai un lien dans les notes de ce podcast si vous voulez écouter. On parle plus de paternité que de son histoire de succès en tant que tel. Mais en attendant, j'avais vraiment adoré cet entretien avec lui et cette heure que j'avais passée. Et ça m'étonne pas que vous entendiez bien. Vous avez l'air d'être fait du même bois, quoi, clairement.
Ouais. C'est vrai qu'on a grandi ensemble, on est ensemble depuis nos 15 ans, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a vraiment évolué ensemble complètement et encore aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai qu'on a des vies qui sont un peu différentes de celles de nos potes, de nos âges.
Oui, c'est vrai. Clairement. Donc tu racontais justement que au lycée t'avais quasiment pas été en cours, mais en revanche t'étais vraiment présente sur le lycée Tu racontais justement que petit à petit ton envol de ta carrière de youtubeuse était en train de se faire. Comment tu vois le truc monter petit à petit, et est-ce qu'à un moment donné ça te fait dire ok, il est temps d'arrêter l'école? Comment ça se passe?
Bah, en fait, le gros déclic, ça a été les 100 000 abonnés, qui étaient en 2013. Parce que 100 000, à l'époque, c'était quand même un cap. Aujourd'hui, bon, moins, parce que forcément, il y a beaucoup plus de monde, mais 100 000, c'est l'équivalent de quand tu passes pour moi le million aujourd'hui, quoi. À l'époque, c'était vraiment une espèce de tournant où j'ai vu les choses s'accélérer parce que je suis rentrée dans une agence, que j'ai commencé à travailler avec des marques, tu vois, que je connaissais depuis toujours. Tu montes des projets en 2016, après, donc bon, quelques années après, j'ai sorti mon livre que j'ai auto-édité, etc. Donc là, tu rentres quand même dans des projets un peu plus concrets qui te font réaliser que c'est pas simplement toi qui fais mumuse avec ta caméra. Non, mais parce que t'as quand même une autre dimension, quoi. Tu commences à gagner de l'argent. Enfin, c'est voilà, t'as toute la partie société, comptabilité, des trucs qu'on n'aborde pas en fait dans un système, enfin dans un parcours classique scolaire. À quel moment t'apprends à faire une facture? À quel moment t'apprends ce que c'est la TVA, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs quand même assez, enfin ouais voilà, c'est à part si tu te spécialises, c'est des choses que t'abordes pas. Donc là j'ai eu vraiment un tournant, c'était vraiment année de terminale où je me suis dit putain, faut que je passe mon bac. J'ai eu mon bac genre à 10,01 alors que j'avais 1,5 de moyenne toute l'année, que tous mes profs me disaient tu ne l'auras jamais, j'étais jamais là, et je me suis dit en fait ce bac il faut que je l'aie pour avoir une sécurité si jamais un jour je veux reprendre mes études, et si je veux, en fait à l'époque non, je savais pas que j'allais arrêter mes études, mais de toute façon c'était quand même quelque chose qui était important pour moi et pour mes parents aussi, rien que pour les remercier d'une certaine façon de m'avoir fait confiance aussi toutes ces années, parce que c'est quand même, tu prends sur ta responsabilité de parent, hein, quand t'as le lycée qui t'appelle et qui te dit écoutez, votre fille est là mais jamais là, que tous tes profs voilà, enfin mon dernier bulletin scolaire, mais c'est une blague, c'est-à-dire que tu regardes les appréciations mais tu hallucines, absente, jamais là, n'a été présente à aucun cours ce trimestre, mais des trucs, tu vois, en tant que parent, je veux dire, donc ils m'ont vachement fait confiance là-dessus. Et bon, j'ai eu ce bac-là. Vous et aviez... en fait, en...
excuse-moi, mais vous aviez un deal ensemble, c'est-à-dire que tes parents ils te disaient, ok, en fait, t'es en train de te ramasser, enfin, t'es en train de ramasser ta scolarité. Il faut que t'aies le bac. Ils t'avaient demandé ça ou c'était toi qui avais.
Ouais. Oui, c'était un accord entre nous. Il m'avait pas demandé, mais on avait une grosse discussion avec mon grand-père aussi, qui était très présent dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé dans mes entreprises, qui m'aide encore, hein, et qui a vraiment cette âme d'entrepreneur, qui m'a donné beaucoup de conseils, qui a toujours été derrière moi pour aussi voilà, valider ça auprès de mes parents et les rassurer. Et en fait, je me souviens d'une discussion, on était tous ensemble avec mon père, ma mère, mon grand-père et moi, et on a conclu. Et chez nous, si tu veux, le sens du contrat, c'est quelque chose de très important dans la famille. C'est-à-dire que dans nos valeurs familiales, le travail, l'engagement, c'est primordial, quoi. Je veux dire, t'as qu'une parole et si tu fais quelque chose, tu vas au bout. Et donc, pour moi, c'était même pas négociable. C'était même pas négociable que je reparte sans ce bac. Voilà, c'était un contrat qu'on avait passé solennellement. Là, on s'imagine un peu une scène du parrain. c'était un peu l'idée. Franchement, moi, je l'avais pris vraiment au sérieux et donc j'ai eu ce bac. Et surtout qu'en fait, au dernier trimestre de ma terminale, j'ai été contactée par une école de communication privée qui me proposait un deal de m'offrir ma scolarité, sachant que les écoles privées sont extrêmement chères, contre de la publicité sur mes réseaux. Donc là, déjà, je me disais, waouh, c'est fou, parce que là, il y a quelqu'un qui me propose de travailler dans ce que je fais, dans ce que j'aime. Enfin, voilà, c'est ce que je croyais à l'époque. Bon, il se trouve que je suis restée une semaine dans cette école et que je suis partie après. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'hyper concret pour moi, de me dire, il y a une école qui me veut. Voilà, bon, donc ça s'est passé comme ça. Et après, j'avais donc dans l'idée de partir faire cette école de communication à Montpellier. Voilà.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors en fait, quand je suis arrivée, bon, l'école était très bien, hein. C'est juste que, si tu veux, quand on m'a dit le projet de l'année c'est de faire un blog, là dans ma tête j'avais l'impression de faire 5 pas en arrière et je me suis dit, mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque? Parce qu'en fait, moi j'avais envie de concret et forcément, mais ce qui est indispensable, hein, les premières années, quand tu sors du lycée et que t'as pas fait de com, bah tu passes quand même par de la théorie. Et moi, je voulais pas, en fait. J'étais tellement dans le concret déjà à côté que j'avais envie de voler de mes propres ailes, de faire mes trucs. J'avais envie de me lancer. Et à l'époque, je gagnais suffisamment ma vie. Enfin, je gagnais l'équivalent d'un peu plus du SMIC. Et je pouvais, du coup, assurer mon loyer, mes courses. J'étais en coloc avec ma cousine. Donc, j'ai dit à mes parents, écoutez, je crois que je vais pas poursuivre parce que je sais que je vais pas être heureuse. Vraiment, ça va me ramener à quelque chose de trop théorique. On faisait du droit et tout, mais c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Et en même temps, avec le recul, je sais que c'est nécessaire quand tu sors du lycée, que tu as envie de bosser dans la com, dans quelque chose d'un peu plus institutionnel, etc. C'est inévitable. Mais j'étais pas là-dedans. Je pense que j'étais dans une démarche d'entrepreneuse, en fait, entrepreneuriale, et j'avais envie d'aller au bout de ça. Et ils m'ont dit, bah, écoute, ma grande, t'es majeure et vaccinée, fais ta vie. De toute façon, ils ne m'assuraient pas financièrement, parce que j'étais déjà autonome. Donc ça, c'était quand même quelque chose de... Bah, c'était une aide énorme, hein, à l'époque, quand t'es majeur et que tu peux t'assumer financièrement. Voilà, donc j'avais mon appart en plein centre-ville de Montpellier et je faisais, et c'est là où j'ai commencé les daily vlogs et à produire du contenu de façon plus régulière et que ça s'est professionnalisé. J'avais une hygiène de vie, mais... terrible, mais vraiment terrible.
Dans quel sens?
Je bossais la nuit, je me couchais à 3h du mat, je bouffais au resto, je n'ai pas mangé, j'ai mangé peut-être 10 fois chez moi en un an. J'étais en plein centre-ville de Montpellier, alors que moi j'ai toujours habité à la campagne, donc là c'était yalla, en mode resto matin, midi et soir. Enfin, c'était vraiment une vie complètement ouf, qui a duré un an, mais qui était nécessaire, je pense, pour cette transition campagne, maison familiale, voilà, à coloc en plein centre-ville de Montpellier. Et en fait, je n'ai plus jamais, quitté ce que je fais, et au contraire, j'ai développé. Donc, c'était la bonne décision pour moi aujourd'hui, avec le recul, je suis contente de l'avoir prise. Ouais.
Ça a été instantané pour toi, cette prise de décision, justement, d'arrêter tes études, parce que j'imagine que tu as une forme de pression, ne serait-ce que sociétale, et j'imagine aussi tout ton entourage qui finit par faire des études autour de. Enfin, je pense que tu n'as pas beaucoup de potes qui, comme tu dis, ont votre vie. Et je pense qu'à l'époque, ça doit être vraiment une grosse, grosse décision de se dire bon, en fait, c'est pas pour moi, il faut que j'arrête, il faut que je me lance à fond dans ce truc que je fais depuis, de façon un peu amatrice, semi-pro, depuis quelques années.
Ouais, écoute, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain, parce que j'ai eu cette prise de conscience de me dire tu n'as pas fait ce que tu as fait pendant ces dernières années pour en arriver là, dans le sens ne pas être épanouie dans ce que tu fais. Et je pense que mon entourage a très vite vu que j'étais pas heureuse. Voilà, j'étais vraiment pas heureuse. Et après, au niveau de mon cercle social, quand j'en parle à mes copines, voilà, à mes amis vraiment que j'ai depuis le collège, elles sont pas du tout étonnées. C'est assez fou, mais peut-être parce que on a grandi ensemble, du coup elles savaient. Mais elles m'ont toujours dit, on savait très bien que c'est toi qui aurais un enfant plus tôt, c'est toi qui allais te marier. Que il y avait quelque chose d'un peu évident pour elles. Peut-être qu'il n'était pas forcément pour moi, parce que c'est difficile, tu vois, quand tu te vois pas de l'extérieur. Mais ça a été une décision qui est sortie des tripes, quoi. Du fond de mon cœur, je savais que c'était pas du tout là-dedans que je voulais me diriger, et ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Tu vois, j'ai envoyé un mail à l'école, et en fait c'est marrant parce que la directrice pédagogique l'a tout de suite compris. Il n'y a pas eu du tout de discorde entre nous. Ça a été tout de suite clair, et elle m'a dit ça se voit que tu es faite pour le concret là, et qu'en fait t'as déjà des compétences que j'avais en fait acquis avec les années d'autodidacte, mes années d'autodidacte en tant que youtubeuse à l'époque.
À ce moment-là, tu décides de te lancer à plein temps. C'était quand ça? C'était il y a...
C'était 2014, 5, je 5, crois.
6 ans, j'allais dire, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. 6 ans.
Waouh.
Mon Dieu. Attends, mais moi, c'est fou, parce que quand je me suis lancée, tu vois, j'étais vraiment seule chez moi, dans mon appart, en coloc. Maintenant, j'ai 96 mètres carrés de bureau, on est 4. Enfin, j'ai... deux sociétés, trois sociétés différentes. Enfin, jamais j'aurais pu penser que ça se développe de cette manière. Je suis hyper contente, hein. C'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu, on est tellement dans un métier qui est particulier, avec aucune vision. On est la première génération à faire ce qu'on fait. En tant que créateur de contenu, c'est tellement des nouveaux métiers que il n'y a pas de visibilité sur dans 10 ans, dans 5 ans. Et c'est marrant, ça ne me fait pas peur du tout. Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Tu seras où dans 5 ans, tu vois?
Une bonne question d'entretien de recrutement, d'ailleurs.
C'est vrai. Je l'ai déjà posé en entretien, je l'avoue, oui.
Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre un petit peu le chemin qui t'a amené à effectivement te lancer dans des daily vlogs, dans ton appartement, etc. Et qui t'amène petit à petit à te dire, ok, en fait, faut que je crée une structure, faut que j'embauche des gens. Qu'est-ce qui te fait te dire qu'il est temps d'embaucher, par exemple, ta première salariée à une époque?
J'avais déjà commencé à avoir des copines qui cherchaient des alternances, etc. J'ai pris des copines en stage, en alternance.
C'était pas compliqué de travailler entre potes?
Ça va, j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des potes qui faisaient la part des choses. Et voilà, moi je suis assez claire dès le début, dans le sens où on est quand même là pour bosser. Et voilà, à l'époque on bossait de chez moi et tout, donc c'est particulier. Ça, je trouve que c'est le plus difficile, c'est vraiment séparer le perso du pro. Et j'ai vraiment senti la différence quand j'ai pris des bureaux, aussi parce que je suis devenue maman. Donc en plus de ça, du coup, voilà, quand t'es chez toi, bosser avec un enfant, on sait tous, en tout cas, les parents savent, et surtout dans cette période de confinement, que le télétravail, c'est sympa sur le papier, mais qu'en réalité, c'est assez compliqué, hein, de bosser quand t'es... Donc j'ai commencé à avoir ces personnes-là qui m'ont aidée. Ma maman a bossé avec moi pendant longtemps sur toute la partie comptabilité, gestion, etc. Très longtemps, elle m'a beaucoup aidée. Et j'ai vraiment, vraiment embauché quelqu'un de l'extérieur. Tu vois, vraiment me taper 800 CV, les entretiens, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça fait un an et demi. Donc vraiment, quand j'ai pris les bureaux, je me suis dit, là, il va falloir que tu prennes quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'épauler un bras droit, quoi. Et c'était un peu le flip. Ça, par contre, tu vois, ça a fait peur à beaucoup de personnes de mon entourage, de faire rentrer quelqu'un d'extérieur dans mes activités, parce que c'est tellement particulier, les activités dans lesquelles... Enfin, toutes mes activités, ça repose autour de ma personne. C'est pas du tout narcissique de dire ça, mais je veux dire, enfin, c'est particulier parce que tu es, il y a ma personne Léa, puis il y a ma marque, puis il y a ce que je suis sur les réseaux, bien que je ne sois pas quelqu'un de différent, mais ça reste quand même une image.
T'es une marque, oui, enfin, bien sûr.
Voilà, donc t'es un média, enfin, donc c'est particulier de laisser quelqu'un rentrer dans ta vie, parce que quand tu le laisses rentrer dans ta vie professionnelle, tu ne peux pas le laisser en dehors de ta vie personnelle. C'est, y a, même s'il y a des limites à poser et que voilà, on a quand même une relation, quand on est au boulot, on est au boulot, mais t'es obligé d'avoir quelqu'un à qui tu fais, enfin, en qui tu as confiance pour beaucoup de choses. Donc c'était un recrutement qui avait beaucoup d'enjeux pour moi, et j'ai voulu vraiment le faire en ne prenant pas quelqu'un que je connaissais, pour vraiment voilà, partir sur des bases neutres et construire vraiment une relation de travail. Il se trouve que j'ai trouvé la perle rare, désolé les gars, elle est prise, ma petite Claire qui bosse avec moi depuis un an et demi. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi monté notre société de conseil après, etc. Mais vraiment, on s'est trouvé, bon, d'un point de vue amical maintenant, parce qu'on est profondément amis, et voilà, mais d'un point de vue professionnel, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que de déléguer et d'apprendre à arrêter d'être contrôle fric sur tout, et de se dire qu'à un moment donné, bah, avoir de l'aide, c'est aussi sympa, et ça te permet en fait de t'ouvrir sur d'autres choses, et des choses dans lesquelles tu t'éclates plus, parce qu'en fait, pour créer, il faut avoir du temps. Et le temps, quand t'es entrepreneur, c'est quelque chose qui est très limité, en fait. Même quand tu comptes pas tes jours et que tu comptes pas tes semaines, et voilà, si tu veux garder un semblant de santé mentale, c'est quand même difficile de gérer, tu vois, je trouve, enfin, je pense que t'es bien placé pour le savoir aussi, le bon équilibre entre le temps que tu passes en ta famille, le temps que tu passes à bosser, le temps que tu passes à créer. C'est des dynamiques qui sont différentes et qui font que, à un moment donné, si t'as pas une personne qui est là pour t'épauler et te décharger de certaines choses, c'est invivable. Enfin, moi, ça en était devenu vraiment très compliqué. Donc Claire, elle est arrivée, elle m'a dit ça, je m'en occupe, et je me suis dit mais c'est génial, parce que c'est tous les trucs qui me font profondément chier, okay. Pardon. et elle gère ça d'une main de maître, tu vois. Elle est hyper organisée sur des trucs qui moi me paraissent chiants à mourir, comme genre gérer ta boîte mail et le fait de répondre à tout le monde et d'être hyper carré sur des trucs. Ça, c'est des trucs qui moi me prenaient du temps. T'es là et tu peux vite, c'est vite très chronophage, quoi, ce genre de truc. Et quand à côté tu dois créer, ben ça te bouffe du temps, et ce temps là ben, je l'avais plus, donc je m'ennuyais un peu dans mon contenu. Donc non, vraiment, ça m'a changé la vie. Et je sais pas s'il y a des gens qui sont entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être, mais c'est difficile franchement, quand t'as ton bébé depuis des années, ton entreprise, de te dire à un moment donné, ok, je vais déléguer, je vais faire confiance, quelqu'un va être capable de faire aussi bien. Tu vois, c'est sans aucune prétention, mais tu construis quelque chose de A à Z, et c'est difficile à un moment donné d'inclure quelqu'un dans cette dynamique-là. Et moi, j'ai vraiment, 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 ça m'a changé la vie, je dois le dire. Ouais, c'est quelque chose qui a permis d'encore plus me développer et savoir où je voulais aller. Puis d'avoir un œil critique aussi. Moi, je cherchais quelqu'un qui n'était pas là pour me lécher les bottes et tout, j'en avais rien à faire. Je voulais quelqu'un qui puisse me dire, voilà, moi, ça, je trouve ça pertinent, ça pas. Et en fait, le virage que j'ai pris sur mes réseaux sociaux quand je suis devenue maman, quand j'ai abordé d'autres sujets, quand j'ai parlé de sujets plus intimes, voilà, j'ai abordé des sujets que je n'avais jamais osé aborder sur mes réseaux, c'est aussi parce que j'avais une personne extérieure qui n'était pas de mon entourage, qui était abonnée à mon contenu depuis des années, sans être dans le fanatisme, c'était pas du tout ce que je recherchais, et qui était capable de me dire, ok, je suis prête à être avec toi pour prendre ce virage et à t'accompagner, et ça a été hyper, hyper bénéfique.
Est-ce que t'étais arrivée à un point de rupture pour faire rentrer Claire dans ta boîte, ou alors ça correspondait à l'arrivée de ton bébé justement dans ta vie ?
Je pense un peu des deux. J'arrivais à bout de quelque chose. C'était la fin d'un cycle, je le sentais, parce que bah déjà, en fait, quand tu deviens parent, il y a quand même certaines choses qui se passent en toi, et moi je savais que voilà, je savais que je voulais me consacrer à ma maternité. Les 6 premiers mois de la vie de Gaspard, vraiment, j'étais consacrée à lui entièrement. Après, bon, j'ai eu la chance d'avoir Samuel qui a pris la décision de s'en occuper après à plein temps, etc. Donc c'était confortable pour moi, hein. Je vais pas le nier. C'est toujours plus confortable de savoir que son enfant est avec son père plutôt que à la crèche ou chez n'importe quel nounou. Bien que voilà, il y a des personnes qui s'en occupent très bien, mais nous c'était confortable pour nous. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, ok, maintenant, ça fait ton enfant à 6 mois, tu retournes au boulot. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Par quoi on commence? Parce qu'en fait, le contenu que je produisais n'était plus du tout en adéquation avec la femme que j'étais, ma vie, mon quotidien. Et du coup, c'était une prise de risque parce que j'avais une communauté qui m'avait suivi pendant des années, mais qui n'était pas forcément au même stade de vie. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, tu ne peux pas continuer à produire du contenu qui ne te plaît pas, qui ne te ressemble pas. Donc j'ai pris ce virage-là et j'ai de la chance que ça a été hyper bien accueilli par ma communauté, que j'ai même récupéré, c'est terrible ce terme, mais des abonnés qui ne me suivaient plus parce que elles étaient dans une autre période de leur vie qui correspondait pas à ce que j'étais avant, qui sont revenues en me disant oh, ben moi je suis devenue maman, ben moi ces sujets m'intéressent, donc je suis ravie de m'intéresser à nouveau à ton contenu et tout, et ça a été quelque chose d'hyper bénéfique. Mais le saut entre l'envie de le faire et concrètement le mettre en place, c'est compliqué de se lancer parce que c'est un peu qui tout double sur les réseaux sociaux quand même. Donc c'est toute la fragilité de notre métier.
Ouais, c'est sûr. Et j'allais te dire aussi, ça t'a fait perdre des gens de ta communauté de l'époque.
Tu as la sensation,
et que tu as renouvelé un peu ton public, c'est ça, quelque part?
Je l'ai vu dans les stats, hein, parce que bon, c'est difficile quand t'as beaucoup de personnes qui te suivent de concrètement voir, mais statistiquement, oui, mon public a vieilli. Avant, j'étais sur du, 14-20, tu vois, et là, maintenant, on est beaucoup plus sur du 18-35. Donc oui, ça a vieilli. Forcément, il y a certaines personnes qui ont dû me lâcher en route, et ce que je comprends complètement parce que t'as des choses qui sont moins pertinentes, voilà, au moment où moi je les vis. Si toi t'es pas du tout là-dedans, forcément tu suis des personnes voilà qui te parlent, mais ça a quand même ouvert d'autres relations, et puis même la relation est différente avec ma communauté et tout. Je l'ai vraiment senti. Il y a eu un cap de passé. En fait, on a grandi, hein. Il y a des personnes qui ont littéralement grandi avec moi, hein.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Ouais.
Mais ceci dit, j'allais dire, il y a des personnes qui ont grandi avec toi, mais il n'y a pas beaucoup de mamans qui ont 21 ans, je pense. Déjà, en France, le premier enfant, il est à 29, je pense, en moyenne. Un peu plus tôt hors Paris, un peu plus tard dans Paris, mais pour te dire aussi qu'il y a aussi une forme de décalage entre ta vie à toi, comme tu le disais tout à l'heure, et je pense le reste de ton public, quoi.
Complètement. Après, là, tu vois, c'est vrai que je parle de moins en moins de parentalité parce que Samuel, j'allais dire, a repris le flambeau, mais c'est plus mon quotidien, dans le sens où moi, la plupart du temps, hors confinement, je suis au bureau, et comme beaucoup de gens, je pars le matin, je rentre le soir, et je suis pas concrètement avec Gaspard la plupart du temps. Donc j'aborde d'autres sujets qui intéressent aussi des personnes qui sont pas parents, et je sais que ça, j'ai eu des retours, tu vois, qui m'ont dit c'est vrai que la parentalité ne m'intéressait pas forcément, mais le côté business, le côté création d'entreprise, le côté bien-être plus global, etc., c'est des choses que j'aurais pas forcément osé aborder en étant plus jeune, et qui maintenant font partie aussi de ma vie, et je m'autorise à le faire. Tu sais, tu es très tenté de suivre les tendances quand tu fais ce que je fais, parce que en fait, t'as toujours ce truc de te dire, est-ce que je surfe sur la vague de quelque chose, même si ça me correspond pas, ou est-ce que vraiment je reste dans ce que j'aime et je vais à fond? Et c'est difficile parce que t'es tiraillé en fait entre l'envie d'être dans le truc et l'envie d'être dans ce que t'aimes. Et à un moment donné, je me suis dit, je veux plus être dans le côté tendance si ça ne me plaît pas, en fait. Si ça ne me plaît pas, je le fais pas. Et c'est t'as un peu peur d'être d'être oublié, hein. C'est sur les réseaux, c'est un peu un truc où tu vois aussi des collègues avec qui t'as été pendant des années et puis qui tout d'un coup ne marchent plus du tout. Enfin, ça pardonne pas. Donc en fait, t'es sans cesse en train de te remettre en question sur ce que tu fais, sur ton contenu. Et moi, c'est quelque chose qui me stimule. Mais je sais qu'il y a des personnes qui supporteraient pas parce qu'en fait, du coup, t'as vraiment pas de routine là pour le coup.
Comment tu vis le fait que justement tu as... Alors, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant que tu as créé ta marque en propre, et c'était peut-être d'ailleurs une décision qui est liée à ça, mais qu'effectivement, ton business est lié à toi, quoi. C'est-à-dire que demain, tu ne peux pas te dire j'ai envie de faire une pause et d'arrêter. Ça doit te foutre une sacrée pression, non?
Bah, les gens ont du mal à comprendre que, tu vois, tu n'as... Enfin, moi, les vacances, profondément les vacances, tu vois, où tu éteins ton ordinateur, ton téléphone, etc. Là, on s'est pris... Alors, je ne sais pas si nous allons pouvoir le faire. Fin juin, on s'était réservé 5 jours, vraiment, où je m'étais dit, c'est 5 jours de vacances. Et littéralement, je sais que ça va être mes 5 jours de vacances dans l'année. C'est-à-dire que c'est 5 jours où tu n'es pas présente sur les réseaux. Et en fait, bien sûr que je comprends totalement que de l'extérieur, tu puisses te dire « Mais attends, meuf, quand t'es en voyage de presse et que t'es invitée à l'autre bout du monde, à des dîners, des activités, des machins et tout. » Mais en fait, ça reste ton taf. C'est un taf de journalisme. Pas la prétention de dire qu'on fait du journalisme, mais ça existait avant nous. C'est ça que je veux dire. C'est les voyages de presse, etc. Ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, on le relaie différemment. On n'est pas forcément sur du papier, on est beaucoup dans l'instantané, la story, machin. Donc ça donne un côté assez léger à tout ce qu'on fait. Mais en fait, tu es tout le temps en création, en interaction. Tu réponds à des gens. Enfin, tu vois, donc c'est compliqué d'imaginer le truc sans, en fait. Enfin, c'est difficile d'imaginer ma vie. Sans ça. Ça fait tellement partie de moi que les week-ends et trucs comme ça, ça bien sûr, je prends du temps pour ma famille et tout, mais t'as toujours quelque chose à faire. Donc c'est hyper compliqué de te dire, ouais, là, si j'arrête tout, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je ne veux pas le savoir, mais c'est compliqué. C'est aussi pour ça que le côté agence de conseil, mon shop en ligne, etc. Bien sûr, c'est quelque chose de sécurisant. Puis de passer de l'autre côté, d'être auprès des clients, et d'apporter tes connaissances, ce que t'as acquis avec ces années, ces expériences, c'est quelque chose qui est très valorisant aussi. Ça se complète bien. Je pourrais pas faire que ça de ma vie, faire que du consulting et tout, voilà. Mais c'est quelque chose qui me plaît parce que je trouve que ça complète ce que je fais par ailleurs, quoi.
Ok. Voilà l'une des questions que j'aurais aimé te poser si t'avais été dans la même pièce que Samuel et moi quand il a pris la décision de s'arrêter et d'arrêter ses études, parce que donc Samuel faisait des études de médecine qu'il a décidé d'arrêter, enfin dans lequel il s'épanouissait pas, hein, pour être aussi clair. Et toi, d'un coup d'un seul, l'intégralité des revenus de la maison te repose sur uniquement sur toi. Comment ça se passe cette décision-là pour toi?
Bah, écoute, pour être honnête avec toi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble avec Samuel. C'est toujours moi qui me suis, enfin, c'est toujours moi qui apportais les revenus dans notre couple. Je veux dire, ouais. Quand on voyageait, c'était moi. Notre mariage, c'est moi qui l'ai intégralement payé. Voilà, c'est. Mais ça a toujours été à partir du moment où on s'est marié, il y avait plus de mon argent, ton argent, on a toujours été en compte commun, et voilà, parce que je considère que ce qu'il fait me permet aussi de travailler et de rapporter l'argent que je rapporte à notre foyer, et si tu veux, je considère que il fournit aussi un travail, même si malheureusement dans notre société c'est peu reconnu, mais franchement ce qu'il fait, et pour l'avoir fait pendant quelques temps quand il était encore à la fac, on faisait deux jours je bosse, deux jours je m'occupe du petit, ça demande tellement d'énergie depuis. En plus, je sais comment il le fait, et Samuel, c'est quelqu'un qui fait les choses à 200%, donc il est pas là sur le canap en train de se boire une petite bière et puis de dire à Gaspard, vas-y, fais ta vie. Non, tu vois, ils font plein de trucs, et puis en plus, là, c'est encore différent parce qu'il s'est lancé sur les réseaux sociaux et que maintenant, je suis carrément son agent, je gère ses contrats, monsieur.
Ah ouais?
parce qu'il a carrément des, mais il est assailli de demandes, mais c'est hallucinant parce qu'en fait, il y a très peu de papas. Donc en plus, lui, il est très sélectif, ce qui est très bien, hein, parce qu'il fait pas du tout ça, il a pas du tout commencé ça pour en faire son activité principale. Il fait ça parce que ça lui plaît de partager et de véhiculer aussi ce message. Mais maintenant, bon, voilà, il a la chance de pouvoir travailler avec des marques autour du monde de l'enfance et tout. Ça le valorise beaucoup et je suis très contente pour lui. Mais quand il a pris la décision, pour moi, ça a été vraiment... Je vais pas te mentir, c'est pas pour faire genre, mais ça a pas du tout été un questionnement, en fait. Parce que le côté financier, c'était moi qui l'assurerais, je ne sais pas. C'était moi qui m'en occupais, déjà depuis des années. Et en fait, il était en études, donc ses parents ont 4 enfants, moi je gagnais déjà ma vie, donc bon, même si ses parents étaient persuadés que j'étais au chômage, c'était quand même petit clin d'œil, belle maman, à ce jour où tu as dit que j'étais, que nous étions au chômage, alors que ça faisait déjà des années que j'assurais le loyer, les factures, etc. Mais bref, toujours est-il que non, ça a jamais été une question entre nous. Puis Samuel a toujours été hyper respectueux de, tu vois, même du fait d'avoir cet argent en commun et tout. Il a toujours fait hyper attention à plein de choses. C'est même moi des fois qui lui dis, putain, mais rachète-toi des caleçons, ils sont troués, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est bon, tu peux aussi, cet argent il est aussi le tien. Donc non, on n'a jamais, ça a toujours été clair entre nous par rapport à ça.
Ok. C'est fou, je sens une telle... comment dire ? Moi, je te le redis, mais vraiment une telle maturité, en fait, dans tout ce que vous dégagez comme propos. Et c'est fou, quoi. Ça me fascine un petit peu. Bravo.
Merci.
Est-ce que tu aurais des leçons à partager de ton parcours jusqu'ici ? De ton début de parcours, en plus, parce que c'est ça qui est fou, quoi. C'est que tu as déjà créé tellement de trucs.
Des leçons. Je pense que le premier truc qui me vient en tête de mes dernières leçons que j'ai pu apprendre par moi-même, c'est le fait de s'entourer correctement et de ne pas avoir peur très vite de s'encadrer professionnellement et juridiquement. Dans le sens où moi je regrette pas du tout dès les premiers instants d'avoir consacré un budget à la création de mon entreprise, au fait de structurer mes activités, parce que on peut très vite s'y perdre. Et en fait, moi j'ai eu plein de collègues autour de moi qui ne l'ont pas fait et qui un jour ont eu un contrôle ou un jour ont eu, et en fait là le ciel te tombe sur la tête, hein. Honnêtement, ça peut être fatal. Donc je pense que vraiment il faut pas avoir le peur de prendre le temps de vraiment poser les bases quand on veut créer son entreprise. D'ailleurs, la petite baseline de notre agence de conseil, c'est commençons par poser les bases, tu vois. Donc moi, je suis très là-dedans, c'est commençons par le commencement. Et c'est vrai que on a pas mal de clients qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, etc. Et bon, je te parle de ça parce que c'est mon quotidien, mais je pense que c'est applicable vraiment dans la vie aussi. C'est step by step, quoi. C'est-à-dire que je regrette pas du tout que ma maman, que mon entourage m'ait forcé, entre guillemets, à commencer par structurer les choses avant de vouloir me développer, etc. Après, en termes peut-être plus global, pas forcément pour les personnes qui sont entrepreneuses, mais il y a eu une période de ma vie où je me suis vraiment rendu compte que tu ne peux pas te développer, être dans la créativité, être dans ce que tu as envie d'être si à l'intérieur de toi, t'es pas bien, en fait. Il y a eu vraiment une période où j'ai eu besoin de me recentrer dans le... Bon, alors, chacun ses outils, hein. Moi, c'était la méditation, j'ai commencé le yoga, etc. Très cliché de dire ça, mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais, franchement ça fonctionne, parce que quand t'es pris comme ça par le boulot, par ta vie perso, par plein de choses, t'as du mal à te dire, tu sais, on court toujours après le temps pour soi, on dit, ah là là, j'ai pas le temps, etc. Mais en fait, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir que je trouve ce temps. Bon, et je me levais à 5h du mat, et de 5h à 6h30 du mat, je ne faisais que des trucs pour moi. Et voilà, ça a duré un temps, mais ça m'a beaucoup aidé. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est vrai qu'on est dans une société aussi où c'est très compliqué à un moment donné de se poser et de se dire, ok, là, comment est-ce que je peux prendre soin de moi, mais concrètement prendre soin de moi, de mon moi, en fait. Et c'est hyper important, parce que quand tu veux te développer, si toi t'es pas tranquille avec qui tu es, avec ce que tu es, si t'es pas bien à l'intérieur, que t'es pas apaisé et que t'as pas, ouais, cette confiance en toi, bah c'est très compliqué, tu peux vite partir en live, je trouve. Donc ça, c'est, ouais, les trucs qui me viennent comme ça. Et après, ouais, non,
je... Comment tu fais pour te renouveler?
Comment je fais? Ben, Comment je fais pour... Bah, moi, je suis une très, 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 très grosse consommatrice de contenu sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je regarde beaucoup. Alors, beaucoup à l'étranger, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, etc. Et je suis toujours inspirée par leur créativité. Je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de peut-être plus libéré dans les contenus aux États-Unis, etc. Il y a moins, tu vois, par rapport à la réussite notamment. C'est fou. Mais c'est fou comme on se rend compte que nous, c'est hyper tabou, quoi. Tu vois, je suis en train de préparer une vidéo là sur tout l'aspect business de ce que je fais. Donc, ça fait des mois que je filme tout ce qui peut être attrait au business. Donc, quand je suis en conférence, quand je fais des trucs, etc. Et on a eu une grosse réunion avec mon agence, avec Claire, avec qui je bosse, parce que j'ai eu envie vraiment d'être très transparente sur cette vidéo, mais j'arrive pas à savoir si je vais le faire. Parce qu'en fait, je me dis, c'est qui tout double. Moi, j'ai envie d'être dans la transparence, de parler de chiffres, de parler de choses, etc. Mais comment ça va être accueilli, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est très inspirant pour moi aux États-Unis, mais que j'ai du mal à transposer à mon contenu français, peut-être parce que j'ose pas encore. Donc écoute, je sais pas si je vais le faire, mais c'est vrai que mon inspiration, elle vient aussi de ce qui, moi, me plaît, quoi. Je me dis, ça me plaît de voir ce côté-là, business, de cette nana que je suis depuis des années, qui a montré son entreprise, etc. Et je me dis, peut-être que moi, ça pourrait aussi servir à des personnes, ou même si c'est une seule personne, ça peut inspirer à se dire, ok, je suis capable de le faire, je vais lancer mon entreprise. Mais c'est toujours délicat, je trouve, d'aborder tous ces sujets-là. Donc,
c'est dur en France. Hein.
Donc ouais, c'est très dur, je trouve. C'est très dur, tu vois. Bon, on est sur un podcast Histoire de succès, donc c'est...
Non, mais...
on est carrément dans le thème, mais c'est difficile d'aller vraiment, tu vois, de parler de chiffres et tout. Et pourtant, quand tu te lances, t'as besoin d'avoir des informations concrètes sur ce genre de choses. Moi, je pense que je serais prête à les partager, tu vois, dans des contenus, etc., tournés autour du boulot. Mais comment est-ce que c'est accueilli, ça, c'est une autre histoire. T'as pas envie non plus de te lancer les foutes, quoi.
Ouais, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression, dans tous les commentaires que je vois, parce que moi, assez régulièrement, je parle de l'économie de mademoiselle, et en fait, les gens ont aucune éducation à l'économie de l'entreprise, même en tant que salarié, en fait. C'est hyper important d'avoir une éducation de, par exemple, entre ton salaire que tu touches, toi, à la fin, et ce que l'employeur paye, combien tu finis par coûter, entre guillemets, à l'entreprise, c'est hyper important. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et de ce fait-là, la plupart des gens n'ont aucune idée et donc finissent par avoir des idées parfois un peu erronées à propos de l'économie et de comment peut fonctionner une boîte, quoi.
Ouais, donc c'est ça, t'as envie d'être un peu plus clair pour montrer que c'est pas forcément ce qu'on croit, et en même temps, tu t'ouvres du coup quelque chose de compliqué. La problématique est là. Mais ouais, donc.
N'hésite pas à me tenir au courant, je le partagerai avec grand plaisir si jamais tu sors cette vidéo, parce que je pense que c'est hyper important. Mais effectivement, il faut que, à un moment donné, la parole se libérera pas si. Des gens comme toi décident pas aussi de prendre la parole sur le sujet.
C'est ce que je me dis honnêtement.
Et mais t'as raison, faut du courage.
Ouais, écoute, peut-être ça va lancer quelque chose, et après, plus on va être à le faire, moins ce sera tabou, tu vois, c'est toujours ça.
On n'a pas parlé de ton podcast.
Parce oui. Que,
typiquement, voilà un truc sur lequel c'est assez intéressant de devoir te lancer. C'est-à-dire que il y a ce format-là. Je ne sais pas si tu consommais des podcasts, en fait, avant de te lancer toi-même dans ce podcast.
Ouais, je consommais des podcasts américains parce que c'est hyper, hyper courant maintenant. Enfin, c'est ouf. Enfin, l'engouement qu'il y a autour des podcasts aux États-Unis et tout, c'est bon. Moi, j'ai commencé par écouter les podcasts des nanas que je suivais sur YouTube, sur les réseaux et tout. Et puis, à un moment donné, en fait, comment ça s'est fait? J'ai été contactée par... non, c'est mon agent, en fait, qui m'a dit, écoute, on veut produire des podcasts et on te verrait carrément en avoir un. Est-ce que ça te dit? J'ai dit oui, si je peux parler vraiment de ce que je veux, parce qu'à partir du moment où c'est produit, en plus là c'est produit par TF1 puisque je suis dans l'agence digitale de TF1, donc tu vois, moi j'avais mis un peu des réserves sur ma capacité à parler de ce que je voulais. Ils m'ont dit, écoute, tu es totalement libre de parler de ce que tu veux, et du coup j'ai dit bon, allez, banco, parce qu'en fait c'était aussi un format qui est pour moi hyper intéressant, dans le sens où c'est à la fois intime et en même temps c'est un format qui permet d'être écouté partout dans la vie active, dans les transports, en voiture, tu fais la cuisine, enfin tu vois, je trouve que ça s'adapte complètement à notre société en fait, le podcast, et pourtant c'est beaucoup plus slow qu'une page Instagram que tu scrolles sans arrêt, une vidéo YouTube que tu zappes, etc. Il y a quelque chose qui nous ramène un peu à l'essentiel avec la voix, et je trouve ça hyper intéressant, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas parler de la parentalité, qui est un sujet qui m'intéresse énormément, sur ce format-là, de recevoir des gens pour parler de leur parcours, de sujets divers et variés autour de tout ça, et écoute, ça me plaît vachement, et là on est à la saison 3, et on est très contents, parce qu'en plus on a récupéré la partie production au final.
Ah ouais.
Donc on fait tout à Montpellier, on a un studio à Montpellier avec une personne qui monte, qui nous enregistre, etc. Donc c'est vachement bien de pouvoir gérer ça aussi en interne, les profils, etc. Là on a sorti un épisode notamment sur une nana, tu vois, qui a grandi au sein des témoins de Jéhovah et tout, et c'est hyper poignant, quoi, d'avoir ces témoignages et tout. Je suis très contente du format que ça...
Ah, c'est cool.
Voilà, de la tournure que ça prend, donc...
Et donc, l'air de rien...
C'est comme ça que je me suis lancée.
L'air de rien, tu viens de monter un studio de podcast.
Non, alors, pas toute seule, parce qu'en vrai, ils font plein de trucs dans ce studio, il a vraiment beaucoup de boulot, mais c'est vrai que de travailler avec, d'avoir une équipe de personnes, moi je suis très comme ça, ma mère elle dit que je suis très tribu, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en fait moi quand je bosse avec des gens et que ça fonctionne, et voilà, ça devient vraiment ma team, quoi, c'est mon équipe, et j'ai envie de continuer à bosser ensemble, et donc c'est important, et ça c'est vraiment un truc que j'ai compris avec les années, de s'entourer de personnes en qui t'as vraiment confiance, quoi, avec qui tu sais que tu peux avancer, et ça te décharge de beaucoup, parce que quand t'es toujours obligé de repasser derrière les personnes, ou tu vois, de contrôler, etc., ça te prend un temps fou, donc d'avoir des gens autour de toi, voilà, en qui t'as confiance, tu sais que voilà, que c'est un gain de temps, et le podcast, c'est quand même beaucoup de boulot. Je pense que tu le sais comme moi, mais on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière, donc c'est important que ce soit fluide pour pas que ça empiète sur tout le reste, parce qu'on n'a pas des semaines de 50 heures, enfin si, un peu, mais mais on essaye de pas trop déborder non plus sur le week-end, les temps qui sont précieux en famille.
Bon ben bravo Léa.
Et puis merci
d'avoir consacré ce temps à Histoire du succès, ça me fait plaisir. Vraiment, c'était très inspirant. J'espère que ça va inspirer des auditrices, des auditeurs et peut-être même des plus jeunes, parce que vraiment de voir ce parcours que tu as entamé dès le collège, c'est trop cool, quoi.
Mais rien n'est impossible, vraiment. J'espère et je pense qu'on est vraiment dans un moment de la société, tu vois, où on est en train de se dire que l'entrepreneuriat, il faut le valoriser, et j'ose espérer qu'il y ait des jeunes qui se lancent et des femmes, et c'était très chouette. Merci pour cette petite discussion.
Avec grand plaisir. Je vous mettrai tous les liens pour découvrir le travail de Léa si vous ne le connaissiez pas, mais sans doute vous le connaissez parce que Léa est huge sur les réseaux. Vous l'avez sans doute vu passer d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à toi Léa, et puis force
merci
à toi pour la suite.
Merci beaucoup.
À plus. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Fab, je suis votre hôte, et cette semaine, je vous propose un bonus exceptionnel sur Histoire de Daron. Cette interview de Léa, aussi appelée Je ne suis pas jolie sur les réseaux. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous... Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Fab, je suis votre hôte, et cette semaine, je vous propose un bonus exceptionnel sur Histoire de Daron. Et... Je vous propose donc une rediffusion de cette interview de Léa, aussi appelée « Je ne suis pas jolie » sur les réseaux, diffusée il y a quelques semaines sur mon autre podcast qui s'appelle « Histoire de succès ». Dans cette interview, Léa raconte son parcours et comment elle gère son business à seulement 23 ans. Elle est aussi, et c'est pour ça que vous la retrouvez aujourd'hui dans « Histoire de Daron », c'est qu'elle est aussi la chérie de Sam Sam, qui est invitée dans « Histoire de Daron » qui a été invité dans Histoire de Daron il y a un peu plus d'un an. C'est l'épisode numéro 38, je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast si vous ne l'avez jamais écouté, c'est vraiment très intéressant. Je me suis dit que ça valait la peine pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez sans doute
La première, c'est que vous aviez été très nombreuses et nombreux à réagir à l'époque où j'avais sorti l'épisode avec Sam. Je me suis donc dit que cette interview pourrait intéresser également mes auditrices et mes auditeurs sur Histoire de Daron. La seconde, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de vous faire découvrir mon podcast d'interview qui s'appelle donc Histoire de succès, je vous le redis, et où je reçois tous les jeudis matins un ou une invitée pour lui parler de son parcours. La troisième, c'est que comme il n'y avait pas d'épisode d'Histoire de Daron ce lundi, je me suis dit que ça vous ferait un petit bonbon à croquer pour la semaine. Si vous l'avez déjà écouté ou que ça ne vous intéresse pas, désolé, vous pouvez passer celui-ci, mais vous pourrez bien sûr retrouver un nouvel épisode du podcast, un épisode traditionnel, dès lundi prochain, le 4 mai. En espérant que cette interview vous plaise, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast Histoire de Succès et à lui mettre une bonne note, bien sûr, sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un chouette commentaire, vous connaissez les trucs. Depuis le mois de septembre dernier, j'ai reçu des tas d'invités fabuleux, et notamment Fabien Olicard, Trio, Denis Brognard, Pomme, Vincent Delerme, Maurice Barthélémy, Marina Rollman ou encore Fadili Camara pour les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Un grand merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une belle écoute et une très chouette semaine.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.